Bonjour à tous, je suis le docteur Plantier. Je travaille habituellement à l'hôpital René Sabran, c'est à Gien dans le Var. Je souhaitais qu'on discute ce soir donc de la neuroimagerie après trauma crânien, application à l'expertise médico-légale. Je voulais aussi commencer par vous souhaiter la bonne année et surtout la bonne santé à tous.
Merci.
Allez, nous voilà parti dans l'univers du cerveau adulte, donc en moyenne 1,450 kg, quelques 100 milliards de neurones, une petite introduction, 1 milliard de cellules gliales, siège de la pensée consciente, mémoire de l'individu et de sa personnalité. Sur les aspects de physiopathologie, je voulais vous rappeler combien nos moyens de transport peuvent être dangereux. Avec à 30 km/h une violence d'un choc qui équivaut à celle d'une chute verticale d'une hauteur de 3,50 m. À 60 km/h, on équivaut à une chute verticale du haut d'un immeuble de 5 étages, soit 13 mètres. Voilà pour ces petits paramètres physiques. On va attaquer donc la physiopathologie du trauma crânien qui se veut le plus didactique possible et qui se veut utile après pour comprendre ce qu'on va rechercher dans les aspects de neuroimagerie après cette première partie de physiopathologie. Donc on est sur ce dilemme, une boîte dure qui contient une masse molle. Imaginez une boîte dure dans laquelle vous mettez une masse molle, vous secouez parce que c'est un petit peu déjà la reproduction d'un traumatisme crânien. La masse molle à l'intérieur va se déplacer. Notre cerveau n'est pas.
Merci, Mag.
Notre cerveau n'est pas fixé, il est dans une ambiance liquidienne qui est là pour amortir les chocs. Mais sur les chocs les plus violents ou les décélérations les plus brutales, il va se déformer en trois dimensions à l'intérieur de cette boîte dure et venir du coup percuter un certain nombre de d'éléments anatomiques du crâne dur comme en avant. Vous voyez ma flèche. L'os frontal devant.
Excusez-moi, excusez-moi, juste, est-ce que ceux qui ont un micro ouvert peuvent le fermer parce que je crois que vous êtes parasité par l'orateur, là, un peu parasité par des.
Il y a des effets, effectivement, de retour de son. Ça a l'air d'aller mieux.
Ça a l'air très bien.
Ah, parfait. Je disais donc, j'en étais donc sur ce cerveau qui est littéralement posé sur sa base du crâne et qui va venir sur ces phénomènes d'accélération, décélération brutale, venir percuter l'os devant, l'os frontal, mais aussi dans sa loge temporale entre petite aile et grande aile du sphénoïde. Le lobe temporal peut être aussi soumis à d'importantes lésions par mobilisation, encore une fois, de cette partie du cerveau. On a également derrière la partie occipitale, c'est-à-dire la partie arrière du cerveau, qui va venir taper cet os dur. Cette diapositive pour vous rappeler en fait la structure hautement fibrillaire du cerveau et son organisation en faisceaux et en fibres. Ici, vous avez le faisceau inciné. Je crois que vous voyez, j'espère que vous voyez ma flèche. Donc, ce faisceau qui relie deux aires de langage en particulier, et ces grands faisceaux vont pouvoir être reconstruits remodelés, évalués par l'imagerie, notamment IRM. Une diapo également de rappel sur des éléments de lésions fréquents que l'on va retrouver après traumatisme crânio-cérébral. Juste en dessous de l'os, De l'arachnoïde, on va retrouver, entre sous l'os la dure mère, on va retrouver un hématome extradural qui va correspondre plutôt à une fracture osseuse et donc à une plaie artérielle, donc quelque chose qui va être sous pression. Alors que dessous, entre la dure mère et l'arachnoïde, on va retrouver ce qu'on appelle un hématome sous-dural. On verra des exemples tout à l'heure. Je voulais également insister sur des petites veines que l'on retrouve à la surface du cerveau, qu'on appelle les veines ponts, qui correspondent peut-être un peu plus à la physiopathologie des saignements des bébés secoués, mais qui est également totalement vrai chez l'adulte. Ce sont des veines qui ont un trajet court, droit, sans sinuosité, entre l'arachnoïde et la dure mère, qui sont protégées par la faux du cerveau sur les mouvements antéro-postérieurs, et qui sur des mouvements latéraux vont être étirées et vont saigner. Vous en avez une représentation ici. Donc, le sinus veineux longitudinal qui donne une petite veine. Cette petite veine, lorsque la masse cérébrale en dessous va être en mouvement lié à un phénomène d'accélération, décélération ou un traumatisme crânio-encéphalique. On va donc tirer sur cette veine et mettre un épanchement sanguin qui sera hémorragie méningée ou plutôt hématome sous-dural. Alors, j'aime bien dans ces représentations essayer de rendre un peu à César ce qui lui appartient. Donc, vous avez ici une diapositive sur une publication du Lancet de 1943. Donc, un certain Holborn qui est physicien, il n'est pas médecin, mais il étudie la vulnérabilité du cerveau et il lui retrouve ses propriétés mécaniques assez singulières avec un faible coefficient d'allongement et un fort coefficient de compressibilité. Notre cerveau est très compressible, mais dès qu'on va essayer de l'allonger, on va avoir une rupture de ces différentes fibres que je vous ai montrées. C'est le premier à évoquer cette théorie du cerveau mobile à l'intérieur du crâne, avec le meilleur moyen pour léser ce cerveau est un mécanisme rotatoire. On va devoir travailler sur deux types de lésions. Celles qui seront liées au choc direct d'impact et d'autres lésions qui seront davantage liées à des phénomènes d'accélération, décélération, transverse ou rotatoire ou mixte. On imagine ici un coup porté vers l'avant. Je pense que vous voyez donc ma flèche ici comme quelqu'un qui reçoit un coup sur l'avant de son crâne. Le cerveau va être immédiatement propulsé sur l'arrière, éventuellement avoir une lésion plus en arrière et rebondir, puisqu'il est une masse molle, vers la partie devant. On va avoir ces phénomènes d'accélération, décélération et ces mouvements de la masse cérébrale d'avant en arrière, de droite à gauche ou des mouvements mixtes en fonction du traumatisme. On va avoir donc pour le premier type de lésion, des lésions liées au choc direct, d'impact, de mobilisation de la masse cérébrale sur le crâne, qui vont donc réaliser des contusions cérébrales au niveau des pôles cérébraux. Du fait du rebondissement du cerveau, on va avoir une lésion indirecte de contre-coup, avec une oscillation du cerveau donc au point d'impact, qui va le traverser, le blesser contre l'os de manière diamétralement opposée. Ce sont donc des contusions des pôles cérébraux. Donc, les pôles vous sont rappelés ici, le pôle frontal, temporal, occipital. On verra ces lésions en imagerie. Courville, 1942, est un neurochirurgien. Il fait aussi l'histologie donc de 200 macroscopiques, de 206 TC décédés. Donc, nous sommes en 1942. 145 lésions directes temporales, donc polaires, 84 frontales, 51 occipitales. On voit cette prédominance temporale qui est également retrouvée dans certaines imageries, notamment fonctionnelles, davantage, tout aussi structurelle, mais peut-être davantage encore sur les imageries qui évaluent tout ce qui est fonctionnement cérébral, à savoir débit sanguin cérébraux, tomoscintigraphie en émission monophotonique ou TEP scan, on le verra plus tard. Le deuxième type de lésions, c'est ce qu'on appelle les lésions axonales diffuses. Alors, on a tous appris que dans un traumatisme crânien, score de Glasgow, durée de la perte de connaissance ou de l'amnésie post-traumatique sont des facteurs pronostiques des traumas crâniens, mais celui-là aussi est évidemment un facteur pronostique décisif, la présence des lésions axonales diffuses. Donc, c'est un véritable prédicteur clé du devenir. C'est un mécanisme de cisaillement. C'est toutes ces fibres qui sont donc mobilisées par la masse cérébrale qui bouge et qui vont être cisaillées par ces phénomènes d'accélération, décélération angulaire ou non, et aboutir à ces lésions. En phase aiguë, on aura ces lésions axonales diffuses. En phase chronique, du fait de la mort cérébrale, on aura une atrophie cérébrale qui va s'installer. Alors, ces phénomènes, on les voit à la fois au niveau du cortex et au niveau de la substance blanche cérébrale. Je vous ai mis cette diapo sur la représentation du cortex cérébral. Notre cortex cérébral présente 6 couches. On a en fait des neurones qui vont passer d'une couche à une autre. Chacune de ces couches va avoir en fait une réactivité mécanique différente à un traumatisme au niveau de la tête. Et on va avoir des glissements entre les couches. Donc, chaque couche aura une inertie différente qui lui est propre. Et ces glissements entre les couches vont réaliser le cisaillement axonal. On a donc ici cette représentation d'un axone normal. Ce cisaillement représenté par cette vrille et qui, après le traumatisme, va aboutir à la mort irréversible de la cellule nerveuse. Ce cisaillement axonal, il a bien été démontré entre les couches de neurones. Ce sont des ruptures des axones qui connectent les cellules entre deux couches, mais aussi à la jonction substance blanche, substance grise. C'est véritablement un mécanisme de mécanique qui va expliquer ces différentes lésions. Et en particulier, chaque fibre va pouvoir supporter une charge physique ou non, se rompre ou la supporter. Sur les éléments de preuve anatomiques, ces lésions axonales diffuses, elles sont bien connues sur les études en histopathologie. On les a surtout au niveau de la substance blanche ou corticale, le corps calleux, l'hippocampe, c'est-à-dire cette zone temporale interne de la mémoire, le fornix, tronc cérébral et pédoncule. Vous imaginez que chaque hémisphère, droit ou gauche, peut être mobilisé par le traumatisme. Partir à droite, tandis que son homologue va partir à gauche, j'exagère un peu, mais suivant le mécanisme traumatique, la structure qui unit les deux hémisphères, le corps calleux, va être ainsi étirée et cisaillée. De même, sur les points d'appui du cerveau qu'on appelle les pédoncules, ces pédoncules vont être mobilisés, étirés, lorsque la masse cérébrale va bouger à l'intérieur du crâne. Oppenheimer, en 68, avait résumé en quelque sorte les différentes lésions que l'on pouvait retrouver après trauma crânien. On a donc l'écrasement de surface du cerveau contre le crâne, c'est la contusion dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'étirement de petits vaisseaux avec des distorsions subites, des saignements, des micro-saignements, ce sont les vaisseaux cérébraux qui vont se mettre à saigner. Les torsions, étirements, cisaillements des fibres nerveuses avec ou sans hémorragie. Et des déchirures de fibres nerveuses également possibles, croisées par un vaisseau sanguin, lui-même étiré ou distordu, pouvant même agir comme un agent vulnérant. Vous avez ici une représentation de ces fameuses lésions axonales diffuses, notamment sur la substance blanche. Vous avez ici une lésion majeure au niveau du corps calleux et une multitude, une foultitude de petites lésions qui correspondent à ces lésions axonales diffuses qui ont ici abîmé ce cerveau. Je passerai assez vite sur les conséquences, sur les aspects chimiques au niveau cérébral, parce qu'on s'en servira moins en réparation du dommage corporel. Et évidemment, après toutes ces ruptures d'axones, une cascade chimique secondaire va intervenir avec donc une rupture du squelette de l'axone et du neurone, une interruption des transports des molécules qui font vivre cette cellule, d'autres médiateurs qui vont interagir comme le calcium, des dysfonctions au niveau des mitochondries qui sont les processus d'énergie des cellules, de l'œdème cellulaire qu'on pourra voir en imagerie, une atteinte gliale, une ischémie, une mort cellulaire par apoptose et une dégénérescence valérienne. Il est vrai que certains de ces éléments peuvent être retrouvés, en particulier au niveau des spectro-IRM, on va en reparler, mais leur valeur dans l'expertise médicale est moindre. Voilà pour cette partie physiopathologie. Est-ce que vous avez éventuellement des questions ou est-ce que l'on continue en engageant la neuroimagerie? Je ne vois pas de questions. Alors, on va enchaîner. Sur cette partie de neuroimagerie, je vous ai mis une diapo qui reprend un peu tous les acronymes que vous pouvez retrouver dans les comptes rendus médicaux. TDM, pour tomodensitométrie, c'est un scanner. IRM, je vous laisse lire en même temps. TEMP, tomoscintigraphie en émission monophotonique. Également SPECT pour les Anglais, le TEP ou le PET scan, tomographie par émission de positons, et vous verrez peut-être aussi le mot PAX, qui sont nos systèmes de stockage des images dans les hôpitaux, des gros disques durs, Picture Archiving Locating System. On trouve donc de plus en plus maintenant des CD-ROM ou des imageries qui sont remises sous forme dématérialisée. On n'a plus de planches à l'heure actuelle pour regarder les images. Alors, l'objectif de